Idée. Une émission proposée par Benoît Ruel. Première partie.
Bonjour ou bonsoir. Les hommes et femmes politiques nous ont beaucoup parlé ces derniers temps et continuent de le faire du modèle social français qu'il convenait de préserver. Comme si, fait remarquer Bernard Brune dans le numéro d'avril 2007 de la revue Esprit, le modèle né au lendemain de la Seconde Guerre mondiale avait par miracle survécu au profond changement qu'a subi notre pays depuis lors. Comme si les dispositifs de protection sociale mis en place à l'époque s'étaient tranquillement adapté à l'évolution démographique, au progrès de la médecine, aux bouleversements économiques. De gouvernement en gouvernement, on invente des mesures plus ou moins adaptées, plus ou moins pérennes, sans se rendre compte que certains des principes qui ont permis à la France de se relever brillamment pendant les Trente Glorieuses appartiennent au passé et que nous nous attachons à des archaïsmes. Comment peut-on continuer, s'il le faut, à défendre efficacement ce qui reste de notre modèle social? C'est la question que je pose cette semaine à mon invité, Philippe Diribarne. Philippe Diribarne, bonsoir.
Bonsoir.
Polytechnicien et diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris, vous êtes directeur de recherche au CNRS, homme d'affaires expérimenté dans le domaine des entreprises et leurs difficultés. Vous avez beaucoup travaillé sur l'influence des cultures nationales, sur le fonctionnement des organisations. Et il y a quelques mois, vous avez publié aux éditions du Seuil un essai intitulé « L'étrangeté française ». Cette étrangeté, somme toute, de nos singularités vantées ou brocardées. Philippe Diribarne, comme il ne s'agit pas de caricaturer, il faut dire d'emblée que votre souci, et c'est en cela que votre essai est passionnant, c'est d'éviter toute diabolisation. Il ne s'agit pas pour vous de dire qu'il faut jeter aux orties, car elles seraient obsolètes, nos habitudes, nos pratiques, nos institutions, mais de faire un tri entre des pratiques qui manifestement sont devenus des archaïsmes et des pratiques qui relèvent d'une culture, autrement dit, entre des pratiques qui sont productrices de pesanteur et des pratiques qui, parce qu'elles sont culturelles, sont susceptibles d'être au contraire des ressorts contre le déclin. C'est bien ça ?
Tout à fait. Souvent, effectivement, quand on parle d'un modèle social, on a tendance à assimiler deux choses. Des choses tout à fait transitoires, quand on regarde l'évolution de la législation sociale, des rapports de travail, on voit qu'au fil des décennies, bien des choses changent. Et puis quelque chose de beaucoup plus permanent, c'est une sorte, disons, d'esprit, une manière de concevoir ce que c'est que de vivre ensemble, que de travailler ensemble, et en particulier, une manière de faire quelque chose qui n'est facile nulle part, qui est de concilier en quelque sorte la situation du travailleur subordonné, plus ou moins précaire, disons, d'une entreprise, et la situation du citoyen libre, égaux à tous ses concitoyens d'une société démocratique. Et on voit donc que aussi bien les États-Unis, l'Allemagne que la France ont mis du temps avant de trouver une certaine manière de concilier, disons, ces deux dimensions, et que la France, disons, l'a fait à sa manière, en mettant en avant ce que n'ont pas fait ni les États-Unis, ni l'Angleterre, ni l'Allemagne, ni les Pays-Bas, ni d'autres pays, la question du statut, la référence au statut.
Alors, vous venez de citer de nombreux pays, notamment des pays européens. C'est intéressant parce que, je le dis à nos auditeurs, c'est important. Avec cet essai, vous suivez au fond une démarche que vous avez adoptée depuis de très longues années maintenant. C'est un travail comparatif. C'est la France face au monde anglo-saxon, face à l'Allemagne, face à l'Europe.
Tout à fait. Alors, disons, dans mes recherches, je porte sur un ensemble, disons, de pays plus vastes actuellement. En particulier, je travaille sur la Chine. Avec mon équipe, on a pas mal travaillé en Amérique latine, en Afrique. Mais, disons, pour comprendre, il me semble, disons, la difficulté de la France à s'adapter au monde moderne et à la difficulté de la France au sein de l'Europe, sa singularité au sein de l'Europe, je crois que c'est effectivement, disons, une comparaison à l'intérieur de l'Europe et en particulier avec ces de grands autres pôles, si vous voulez, de conception de la vie en société, que sont d'une part la tradition anglo-saxonne et d'autre part la tradition allemande, qu'il me paraît utile de se confronter.
Alors, votre essai débute par un chapitre où vous posez la question « qu'est-ce qu'être libre ?» avec une autre qui vient immédiatement après « qu'est-ce que la noblesse ?» Alors, non pas la noblesse au sens de l'Ancien Régime, mais comme ce qui anime un idéal de vie personnel et social qui, dites-vous, fait toujours référence. Pourquoi ce passage par la liberté et la noblesse ? Ça n'est pas nouveau dans votre travail. Vous insistez beaucoup sur ces deux termes, liberté, noblesse.
Bien, disons, le premier terme est lié à la grande transformation qui a marqué toutes les sociétés européennes. Toutes les sociétés européennes, 18e, 19e siècle, sont passées, disons, de l'état de société traditionnelle dans lequel on avait des pouvoirs monarchiques plus ou moins absolus, etc., à l'institution de société démocratique dans lequel le pouvoir a été donné au peuple et qui sont construites toutes au nom de la liberté et de l'égalité. Je crois qu'il était d'autant plus frappant pour comprendre en quoi ces sociétés restent différentes, de voir que même, disons, même dans ce mouvement, dans lequel elles ont probablement convergé plus qu'elles ne l'ont jamais fait, dans des valeurs communes, dans des idéaux communs, comment elles sont restées chacune, à bien des égards, fidèles à une conception particulière de ce que ça veut dire que d'être libre. Et conception, au fond, qui s'enracinait, disons, dans cet été, dans les sociétés d'Ancien Régime, l'opposition entre l'homme libre et celui qui ne l'était pas. Et donc on voit que, disons, dans le monde anglo-saxon, on a une continuité autour de la figure du propriétaire, au fond, de celui qui est propriétaire de lui-même, propriétaire de sa vie, propriétaire de ses droits, propriétaire de sa liberté. On peut citer Locke, mais on pourrait citer, disons, d'autres auteurs. Dans le monde germanique, au contraire, une référence qui a demeuré à celui qui, en commun avec ses pairs, gère les affaires d'une communauté, mais en étant prêt à se soumettre, disons, aux décisions prises avec la communauté, beaucoup plus que son homologue anglo-saxon n'est prêt à le faire. Et en France, une troisième tradition qui peut paraître un peu baroque, parce que finalement elle a été peu théorisée par les philosophes, disons, politiques, qui consiste à reprendre ce vieil idéal, disons, d'Ancien Régime, de celui qui est libre parce qu'il est traité avec tous les égards, avec les droits liés à son rang.
Et c'est là qu'on retrouve, qu'on va retrouver, on va en parler tout au cours de cette émission, mais qu'on retrouve notre modèle social. Il est lié à cette idée de la liberté.
Voilà, c'est-à-dire, au fond, le statut, c'est le statut moderne, que défendent à la fois, disons, le statut public, enfin, toutes les, à la limite, quelquefois, jusqu'à la caricature. Enfin, on l'a vu encore récemment, par exemple, à Marseille, dans l'affaire du port de Marseille. Enfin, ça peut atteindre, disons, des degrés tout à fait incroyables, ou en ce moment, peut-être l'affaire des intermittents du spectacle. Donc, le statut, depuis ces extrêmes, jusqu'à, disons, dans le fonctionnement le plus ordinaire des entreprises les plus compétitives, disons, la référence qui devient référence au métier, à la spécificité du métier, c'est resté, au fond, dans la tradition française, une manière moderne d'exprimer une sorte de réinterprétation de ce qui a été, disons, dans la société d'Ancien Régime, le fait que le droit et les devoirs de chacun étaient liés à la place spécifique qu'il occupait dans la société.
Et notre rapport à la noblesse, vous dites qu'on ne peut pas comprendre notre système social si on ne pense pas ce qui est soi-disant noble de ce qui est et ce qui est soi-disant vil.
Alors, ça, disons, on a une expérience, disons, tout le temps. Vous prenez, je sais pas, même dans le métier, mettons, de journaliste, hein, entre tel journal et tel journal, l'un est bien sûr plus noble que l'autre, telle rubrique plutôt que telle autre, ou dans les grandes écoles, telle école plutôt que telle autre. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui va tout le temps informer, disons, la réaction française et le refus de déchoir. C'est lié de la déchéance, on déchoit que si on vous demande, enfin, si on demande à un intermittent du spectacle de devenir simplement serveur de bar, bien, on le fait déchoir. Ou si on lui demande à quelqu'un qui a une activité, disons, qui est ingénieur, mettons, qui est cadre, de se rabattre à une activité de non-cadre, on le fait déchoir.
Philippe Diribarne, et c'est là où votre essai est tout à fait passionnant, parce qu'il sort un peu des sentiers battus, pour saisir les subtilités de notre modèle social, et notamment ce qui est noble, ce qui est vil, etc., vous adressez longuement à Proust.
Parce que Proust, dans sa peinture d'une société tout à fait décadente, qui est déjà, je crois, très décalée à l'époque où il la décrivait, avec tout son talent, a mis, je crois, en évidence de manière très, très, très fine, très subtile et très parlante, le fait qu'il existait non pas un, mais trois modèles de noblesse dans la société française. Et donc Proust oppose le modèle que l'on pourrait appeler, disons, clérical, mais en prenant clérical, pas au sens des clercs, des églises, etc., mais des artistes, des intellectuels, enfin, tout ce qui est lié à l'esprit, la grandeur de l'esprit. Et bien des étrangers sont étonnés, disons, par la place que les Français donnent à ces débats intellectuels dans lesquels on veut de grandes idées, on veut pas se contenter de traiter des choses terre à terre, mais on veut les lier vraiment à la grandeur de l'esprit. Il décrit également, disons, deuxième façon d'être noble, alors là qui est plus dans la lignée, disons, de la noblesse d'ancien régime, disons, traditionnelle, qui est liée à la continuité d'une famille à travers l'histoire, au fait de se distinguer par la gloire. Mais ce que nos intellectuels ne sont pas seulement intellectuels, aussi, ils veulent, disons, en quelque sorte, gagner sur les deux tableaux. Ils veulent à la fois la beauté de la pensée et puis la gloire dans le siècle. Et puis enfin, une troisième manière d'être noble, mais qui est très très dominée dans la société française, alors qu'elle est beaucoup plus respectée dans bien d'autres pays, qui est ce qu'on pourrait appeler la manière bourgeoise d'être noble. Enfin, même ces deux termes peuvent paraître antinomiques, mais il y a toute une conception, disons, la noblesse de robe, disons, dans l'Ancien Régime, a incarné de certaines façons cela, qui lie plus la grandeur au sérieux et au fait d'échapper en quelque sorte à soi-même et à ses tentations, disons, basses, pour être un homme digne dans une tradition, par exemple, antique.
Vous dites que la singularité française apparaît dès que l'on compare la manière dont on se situe socialement en France avec celle dont on le fait ailleurs, notamment aux États-Unis.
Oui, c'est aux États-Unis. Bon, la référence, disons, dans le gros de la société, enfin, il y a, bon, des petites poches d'intellectuels, d'artistes, etc., mais dans le gros de la société, la référence, c'est même beaucoup plus de savoir comment vous avez, est-ce que vous avez réussi, et est-ce que vous avez réussi de manière très, très tangible, hein, quand même, enfin, quel quartier vous habitez, quelle maison vous habitez, quelle est la taille, et finalement, très, très banalement, quels sont vos revenus. Il y a eu, à une époque, des sortes de livres à s'adressant, écrits par des Américains pour des Américains, disant, mais si vous augmentez vos revenus, mais vous devez quitter le quartier où vous habitez, vous-même, vous devez quitter vos amis qui sont plus à la hauteur maintenant de votre nouvelle situation. Et donc, on a, à certains égards, un critère social assez simple, qui est de ce qu'on a été capable, disons, de gagner, et je dirais surtout ce qu'on a été capable de gagner par soi-même, puisque c'est mieux de gagner par soi-même que d'hériter. Au contraire, en France, il y a toute une série de critères beaucoup plus subtils et que, du reste, souvent les étrangers ont du mal à comprendre.
Tout ça, c'est un rapport à la pureté, au fond.
Qui est un rapport, tout à fait à la pureté, parce que, disons, oui, on ne veut pas être engoncé, en quelque sorte, dans le matériel. Pensez au bourgeois gentilhomme, c'était au fond une caricature, bien sûr, mais une belle illustration. C'est de ce désir de quelqu'un qui était... qui avait une activité assez triviale, de vouloir s'élever et se purifier au-dessus de cette condition.
Philippe Diribarne, je change un tout petit peu d'axe, mais il est courant en France, l'actualité la plus récente est encore là pour en attester, de regretter le caractère irréductible de nos affrontements, et au premier chef des affrontements idéologiques qui caractérisent la société française, et de souhaiter l'avenue d'une société apaisée. Et on nous ressort régulièrement l'exemple de nos voisins d'Europe du Nord, par exemple. Est-ce que ça a un sens quand on connaît tout simplement le fond, le tréfonds de la culture française?
Je crois qu'il y a... cette impossibilité d'avoir une société apaisée est liée à une contradiction très très intime de la société française qu'on ne sait pas gérer et au fond sur lesquelles ceux qui proposent des solutions différentes mais toutes irréalistes s'opposent. Bon, la société française est à la fois extrêmement attachée à la hiérarchie, l'opposition entre le noble, le vil, que l'on voit vraiment partout, et en même temps extrêmement attaché à l'égalité. Et à une égalité, l'égalité, au fond, qui transcenderait en quelque sorte la hiérarchie, qui ne serait pas, comme dans les pays anglo-saxons, une égalité devant la loi, qui ne serait pas simplement, comme dans les pays plutôt germaniques, une égalité politique, mais qui serait vraiment une égalité sociale. Au fond, c'est la fin des privilèges, l'égalité sociale, comme Sieyès déjà l'a réclamé. Alors, au fond, comment, quelles sont au fond, les voies sur lesquelles on peut penser, et auxquelles on pense, les politiques actuelles? Bon. Il y a la voie, disons, de l'ultra-gauche, qui est de dire, on va réaliser l'égalité, en quelque sorte, en coupant symboliquement la tête des grands et en les mettant sur une pique. Il ne s'agit plus, bien sûr, de couper la tête réellement, mais enfin, on va s'attaquer aux gros. Et on voit bien que ça ne marche pas. Il y a l'égalité, disons, de la gauche modérée, qui est de dire, on va au contraire élever tous les petits au niveau des grands. Et l'école, Ségolène Royal dit, la première chose à faire, c'est l'école. Et donc on attend de l'école qu'elle réalise cette espèce de magie qui est de transformer le fin fond des banlieues en des personnes qui n'auraient rien à envier aux élèves de l'école normale supérieure. On voit bien que là aussi, disons, en fait, on a essayé des tas de choses, mais ça ne marche pas. Il y a une troisième égalité que l'on voit défendre par, disons, la droite modérée, qui est de dire, mais on va sortir de tous ces archaïsmes, au fond, et on va se contenter de l'égalité anglo-saxonne devant la loi, et avec le fonctionnement du marché, etc. Et on voit bien que ça ne marche pas non plus. Et enfin, je dirais la quatrième, de l'extrême droite, qui est de dire, mais on va être égal, parce que tous, en tant que Français, on est différents des non-Français, et à ce moment-là, la grandeur commune des Français va nous opposer à tout le reste. Ça ne marche pas non plus. Et chacun, disons, constatant que l'autre est incapable de réaliser ce qu'il promet, ne peut que continuer à se défendre bec et ongles de sa solution en réprouvant hautement les trois autres.
Il y a un instant, vous venez de citer Sieyès, l'auteur de la célèbre brochure « Qu'est-ce que le tiers-état ?» C'était en 1789. Et vous citez Sieyès dans ce livre en disant « Il hésitait entre le désir d'abolir toute noblesse et celui de voir le tiers devenir noble à son tour. » Finalement, on a l'impression que le corps social français a largement retenu cette dernière option.
Le corps social français, disons, en pratique, a retenu cette dernière option. C'est-à-dire que toutes les revendications de statut sont liées à ça. C'est-à-dire à travers le statut, finalement, c'est dans la mesure où on est pleinement respecté dans son statut, où on ne peut pas vous imposer de faire quelque chose qui soit contraire à votre statut, donc que l'on est, qu'on a accédé, si vous voulez, à une forme de noblesse. Mais en même temps, le corps social ne se satisfait pas de cela, parce qu'il passe son temps à dénoncer ce à quoi, simultanément, il est passionnément attaché. Et disons, en gros, et pour résumer, chacun aura tendance à défendre passionnément son statut et à attaquer passionnément les privilèges des autres. Puisque statut et privilège, c'est deux manières de parler des mêmes choses, selon, je dirais en gros, que l'on parle de soi ou que l'on parle des autres.
Rapidement, Philippe Diribarne, avant la pause, une question. Vous faites beaucoup référence dans cet essai aux valeurs de l'Ancien Régime, mais quid des valeurs bourgeoises, j'entends celles qui sont prises entre la vision aristocratique et la vision cléricale, au fond, les valeurs inculquées depuis le XIXe siècle. Vision bourgeoise par laquelle chacun se grandit par son sérieux, son honnêteté, la rigueur du respect des lois. Bref, l'ordre moral n'est plus fondé sur l'honneur, mais sur la vertu. Quid de ces vertus aujourd'hui?
Je crois que ce courant demeure, a été longtemps l'apanage d'une bourgeoisie provinciale plutôt catholique. Je pense que dans les électeurs de Bérou, il y a beaucoup qui se retrouveraient, disons, et qu'on comprend si on prend les zones, disons, de réussite, disons, électorales de Bérou, on pourrait les mettre en relation, disons, avec les zones dans lesquelles ce type de conception de la grandeur a une certaine force. Mais ça reste quand même quelque chose, si vous voulez, qui est dominé, si vous voulez, entre d'un côté, disons, à droite, une grandeur plutôt aristocratique, et à gauche, une grandeur plutôt cléricale.
Eh bien, Philippe Diribarne, nous allons faire place au journal, mais nous vous retrouvons, bien sûr, sitôt après, c'est-à-dire dans 10 minutes. Je rappelle le titre de l'essai que vous avez publié au Seuil, et qui est cette semaine sur notre table, L'étrangeté française. Vous souhaitez de plus en plus renseignements, ou tout simplement nous écrire, pour nous faire part de vos réactions, bonnes ou moins bonnes, eh bien, notez l'adresse de l'émission, idée@rfi.fr. Ce numéro d'idée est mis en onde par Luc Danchaud et réalisé par François Audouin. À tout de suite après le rappel de l'actualité.